Radio Pleine Lune, ce soir, on a invité une conteuse d'histoire, de Berthe. Berthe qui, depuis quelque temps, apprend à raconter des histoires. Et elle a choisi des contes, des légendes celtes. Alors ça fait un bon passage avec Cléopa. On continue sur l'Irlande avec des contes celtes. Et ce soir, tu vas nous raconter une très belle histoire.
C'est l'histoire du peuplement de l'Irlande à travers un conte dont le manuscrit a été fait par les moines irlandais. À l'époque où le christianisme était en train d'arriver en Irlande, Finian était père abbé de Moville, une abbaye en Irlande. Il était un grand prosélyte et il voulait évidemment convertir tout le monde au christianisme. Il a entendu parler d'un homme qui s'appelait Toine, dont on lui disait que dans son comté, il était le roi, qu'il était aussi un très grand magicien, mais qu'il croyait encore aux anciens dieux. Finian n'a pas voulu admettre qu'il y ait qui que ce soit dans son pays qui soit encore adepte des anciens dieux. Il a décidé d'aller le convertir. On l'a mis en garde, on lui a dit « Attention, c'est vraiment un grand magicien, il sait beaucoup de choses. » Il a dit « Ça ne fait rien, qu'importe, je dois y aller, j'irai. » Il était très vieux et il a entrepris le chemin pour se rendre auprès de Toine. Les bruits couraient vite déjà à cette époque et Toine a appris que Finian arrivait. Quand il a entendu ce que Finian avait dans la tête, il a fermé son château, il a enfermé toute sa maisonnée à l'intérieur et il leur a dit de n'ouvrir à personne. Finian est donc arrivé devant une maison close. On n'a pas voulu lui ouvrir. Alors le vieux père abbé s'est assis et il s'est mis à méditer devant cette porte close. Il était arrivé le matin. Toute la journée a passé sans qu'il bouge. Toute la nuit a passé. Et le lendemain matin, quand les gens de Toine ont regardé par les ouvertures pour voir ce qu'il en était, ils l'ont vu là, devant la maison, exactement dans la même position, en train de méditer. Et ça a duré aussi toute la journée. Ils commençaient à devenir nerveux à l'intérieur, parce que, comme ils étaient enfermés, ils ne pouvaient pas vaquer à leurs occupations habituelles. Mais rien à faire, Finian, devant la porte, ne bougeait pas. La deuxième nuit, Toine lui-même est devenu nerveux, il n'a pas réussi à dormir. Et le lendemain matin, quand ils ont vu que le vieil homme devant la porte n'avait toujours pas bougé, était toujours là en train de méditer, Toine a craqué. Il a dit « Ouvrez les portes, faites-le entrer. » Ils sont allés le chercher. Il était un peu raidi par sa position. Il a pris un petit moment pour se reprendre. Et alors, il a commencé son travail. Il a commencé à parler du nouveau Dieu à Toine. Il a réussi à le convaincre. Et au bout d'un certain temps, Toine s'est converti. Il a renié, apparemment, toutes ses anciennes croyances. Mais Finian n'était pas si bête. Il s'intéressait à ses anciennes croyances. Et un jour, il a commencé à interroger Toine sur sa vie antérieure, sur ce qui s'était passé avant. Et en particulier, il voulait savoir de qui il était le fils, parce qu'on l'appelait Toine Mac Cairil, ce qui veut dire qu'il était le fils de Cairil, qui était lui-même le fils de Mouredac Courrouge. Alors, il a demandé à Toine de lui raconter son histoire. Et Toine a d'abord résisté. Il n'avait pas du tout envie de parler de ça. Il disait, non, maintenant, je suis convaincue de tout ce que tu m'as dit. Je ne veux plus penser à ces vieilles choses. C'est fini, tout ça. Mais non, je t'assure, il faut savoir aussi se tourner vers le passé, disait Finian. Il ne faut pas le renier comme ça. Raconte-moi. Raconte-moi ta filiation. Et Toine, finalement, s'est laissé convaincre et il a dit « Oui, je suis Toine MacCairil, fils de Mouredac Courrouge, mais je suis aussi le fils de Starn, qui était le fils de Serra, qui était le frère de Partholon, petit-fils de Noé. » Alors là, Finian est resté la bouche ouverte. Il a dit « Écoute, je connais bien les filiations, je sais que c'est une chose importante, mais il me semble que c'est vraiment bizarre ce que tu racontes. Comment peux-tu avoir deux filiations pour commencer ?» Et puis en plus, Partholon, petit-fils de Noé, mais c'est il y a vraiment très très longtemps que ça s'est passé. Et Toine dit, oui, et pourtant c'est comme ça. Je suis venu avec Partholon. Partholon est arrivé en Irlande avec ses bateaux et avec 24 femmes et 24 hommes, et moi j'étais parmi eux. Ils étaient les premiers à arriver. Tout ce qu'il y avait alors en Irlande, c'était des espèces d'êtres qui vivaient au ras le sol, des grands serpents avec des lèvres sur le ventre et quatre yeux sur la tête. Mais il n'y avait pas encore d'êtres humains. Partholon et ceux qui étaient avec lui étaient les premiers. Et moi, j'étais là. Nous étions 2 x 24. Mais au bout d'un certain temps, nous étions 5000. Nous nous sommes multipliés très vite. Mais au bout d'un moment, une épidémie s'est abattue sur nous et a tué tout le monde, sauf un, et c'était moi. Je suis restée seule, mais j'étais tellement seule que ma propre ombre me faisait peur. Je suis devenue comme une bête parce que je ne vivais plus que parmi les bêtes. Je chassais, j'ai appris à tout connaître comme les bêtes, à tout connaître de la forêt. Et ainsi se sont passés 2 x 10 ans et encore 2 ans. Et là, un jour, j'ai regardé vers la mer, j'étais sur le rivage, et j'ai vu arriver des bateaux. Il y avait 24 barques. C'était Némed qui arrivait, avec son peuple. Je les ai vus, ces hommes, et j'avais tellement envie de m'approcher d'eux. Mais comme par hasard, je me suis vue dans une flaque d'eau, et je ne me suis pas reconnue, j'ai reculé devant cette chose que je voyais. Mes ongles étaient devenus comme des griffes et j'avais plein de cheveux partout. J'étais hirsute, j'étais affreux à voir. Je n'étais plus un être humain, je ne pouvais pas me présenter à eux. Alors je les ai regardés dans leur bateau depuis le rivage. Et la nuit est tombée. Et il y a eu une tempête terrible. J'ai entendu les vagues qui fracassaient les barques sur les rochers. J'ai entendu les cris des hommes et des femmes qui se noyaient. Mais je ne pouvais rien faire. Je me sentais fatiguée, je me sentais vieux. Je suis retirée dans une grotte et je me suis endormie. Et j'ai fait un rêve. Et j'ai rêvé que je changeais de forme. J'ai rêvé que mes membres devenaient longs, qu'ils devenaient pleins de poils. J'ai rêvé que des cornes poussaient sur ma tête. J'étais un cerf dans mon rêve. Quand je me suis réveillée, j'étais un cerf. Et je suis sortie de la grotte et j'étais un jeune cerf plein de vigueur. Et je me suis mis à courir et à sentir, à humer l'air frais, comme un cerf hume l'air frais. J'étais un cerf. Et j'ai appris à vivre comme un cerf. J'ai tout appris. Je suis devenue le cerf le plus fort de toute l'Irlande. Je me suis battue avec tous les autres. Et j'étais le chef de toutes les hardes d'Irlande. J'ai vécu comme un cerf et c'était merveilleux dans la forêt. Mais je suis devenu vieux aussi. Et un jour, je me suis retiré de nouveau dans ma grotte. Il y avait les loups devant la grotte. Ils m'attendaient. Ils savaient que je n'étais plus assez fort maintenant pour me battre contre eux. Et je suis sortie, je leur ai dit, « D'accord, demain vous pourrez m'avoir. Laissez-moi encore cette nuit. » Et je me suis endormie et j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, de nouveau, je changeais de forme. Je devenais plus trapu, plus fort encore. Il y a des défenses qui m'ont poussée. J'étais un sanglier dans mon rêve et quand je me suis réveillée, j'étais un sanglier. Et je suis sortie de la grotte en galopant. Et les loups ont reculé. Ils s'attendaient à voir un vieux cerf, mais il y avait un sanglier fort et jeune devant eux. Et j'ai appris à vivre comme un sanglier. Et là aussi, je me suis battue avec tous les autres et j'ai été le chef. Tous les animaux avaient peur de moi. Les loups, les ours, tous. Seule une espèce me faisait peur à moi, ou plutôt m'inquiétait. C'était les hommes, parce qu'il y avait des hommes qui étaient revenus aussi. Il y avait le peuple de Sémillon qui était revenu. Et ils ont peuplé eux aussi l'Irlande. Et je les regardais de loin. Je n'osais pas m'approcher. Je ne voulais pas qu'ils me chassent et je ne voulais pas les chasser. Mais je les regardais et parfois je pensais au temps où avec Partholon, j'étais autour du feu et qu'on écoutait ma voix. Puis je m'éloignais de nouveau. Mais je suis devenu vieux aussi. Je suis devenu un vieux sanglier qui n'arrivait plus à se pousser, qui n'arrivait plus à se battre. Et un soir, je suis rentrée dans la grotte. Et j'étais fatiguée, je me suis endormie. J'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, mon corps s'est couvert de plumes. Ma bouche est devenue un bec. J'étais en train de devenir un aigle plein de force et jeune. Et quand je me suis réveillée, j'étais un aigle. Je suis sortie de la grotte et je me suis envolée dans le ciel. J'étais un oiseau, quel bonheur. Je voguais dans le ciel. J'apprenais à utiliser mes ailes, mes plumes. Et je voyais tout depuis en haut. C'était une toute autre vision des choses. J'ai vu aussi à ce moment-là arriver un autre peuple encore. Parce que le peuple de Sémillon, il avait peuplé l'Irlande, mais ils étaient tous morts. Mais là, Béotar est venu, le fils du prophète Jarbonel. Et je les observais depuis en haut. J'ai observé leurs bagarres. J'ai vu les batailles. Et j'ai vu ce peuple de Jarbonel devenir le peuple des Tuatha Dé Danann. Les Tuatha Dé Danann, ce sont tous des dieux, dit-on. Ils sont, paraît-il, venus du ciel. C'étaient des gens pleins d'esprit. Ils savaient beaucoup de choses. Et je regardais ça depuis le haut. Et j'ai vu aussi arriver les fils de Mils, d'autres envahisseurs. Et ils se sont battus avec les Tuatha Dé Danann. Et ils les ont c'est eux qui ont gagné. Et ils les ont poussés sous la terre. Et depuis ce temps-là, en Irlande, les dieux sont sous la terre. Ils sont dans les grottes, dans les montagnes, partout. Le peuple des Tuatha Dé Danann continue à exister. Et parfois, en certains moments, ils sortent. Ils sortent de leur monde, du ferry, comme on dit. Et moi, je regardais ça depuis en haut, depuis le ciel. J'ai connu toute l'Irlande depuis le ciel. Et puis, l'aigle aussi est devenu vieux. Je suis devenu vieux. Je n'arrivais plus à voler. Les vents me portaient moins bien. Et un jour, je suis descendue et je suis rentrée dans la grotte. Et j'étais fatiguée. Et je me suis endormie et j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, je suis devenue un saumon. Quand je me suis réveillée, j'étais un saumon. J'étais dans l'eau. J'étais dans la mer. Ah, quelle chose merveilleuse. C'était la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée. Parce qu'un saumon, c'est tout d'une pièce. Ça n'a plus de bras et de jambes auxquels il faut tout le temps penser. On est tout d'une pièce. On est dans l'eau et l'eau vous porte, vous caresse. Comme j'étais heureux d'être un saumon. Et j'ai vécu dans l'eau. Et je suis partie très, très loin dans l'océan. Je suis partie là où il n'y a plus que le ciel et l'océan et le saumon. Jusqu'au dernier des mondes, je suis allée. Et j'ai vécu là et j'étais heureux. Mais petit à petit est venue la nostalgie. Je pensais à l'Irlande. Je voulais retourner dans mon pays. Et c'est devenu si fort que j'ai dû entreprendre le chemin du retour. Alors je suis repartie. Quel voyage ça a été. C'était affreux. C'était dur. Mille fois j'ai pensé que j'allais renoncer. J'étais trop fatiguée. Mais finalement, je suis arrivée et j'ai vu les rivages de l'Irlande. Et je suis montée dans les fleuves de l'Irlande et j'ai retrouvé une nouvelle vigueur. Je suis devenue le roi des saumons de l'Irlande. Aucun poisson n'était aussi à l'aise dans l'eau que moi. Mais un jour, le pêcheur de Cairhill est venu. Et il m'a pêché. J'étais vieux aussi déjà. Il m'a pêché et quand il m'a sorti de l'eau, J'ai cru que j'éclatais, tellement j'avais mal de ne plus avoir d'eau. Mais le pêcheur a essayé de me calmer. Il m'a dit « Saumon, c'est ton heure, ne t'en fais pas. » Et il m'a chanté la chanson du fleuve. Et il m'a chanté la chanson du saumon. Et il m'a chanté aussi la chanson de Cairil, qui était le roi. Et il m'a porté à Cairil. Et Cairil avait une femme. Quand elle m'a vue, elle a eu envie de moi. Alors on m'a grillé et elle m'a mangé. Et 9 mois après, elle a mis au monde un fils. Toine, c'est moi. Et c'est comme ça que je suis redevenue un homme.
Sur Radio Pleine Lune, 101.4 MHz, on écoutait Berthe. On écoute Berthe qui nous raconte des histoires. J'espère qu'elle vous fera faire des beaux rêves, mais ce n'est pas encore le moment de dormir. Alors, c'était l'histoire de Toine, des différents peuplements de l'Irlande. Et maintenant, tu nous racontes une autre histoire.
Je voulais raconter un petit bout de l'histoire de Fionn. Fionn est un héros irlandais. Dans la mythologie celtique, il apparaît plutôt à la fin. C'est peut-être plutôt un héros décadent, parce que avant il y a d'autres héros, il y a aussi beaucoup d'héroïnes. Il était le chef de la Fianna. Il a conquis ça de haute lutte quand il était un tout jeune homme, en tuant le fils d'un dieu avec une épée magique, avec une lance magique qui s'appelait Birga. Ensuite, il a eu une vie très aventureuse. Il a eu aussi une très belle histoire d'amour avec une femme biche qui lui a donné un enfant, qui est d'ailleurs Ossian, cet enfant. Mais en fait, je voulais raconter une petite histoire qui s'appelle La mort de Fionn. Fionn est devant la montagne, au bord du lac. Il est seul, il a jeûné pendant 9 jours. Il est là et il médite. Cette nuit est la nuit de sa main. C'est une nuit mystérieuse, une nuit sacrée. Il est assis là près du lac parce qu'il attend Sivé, la déesse. Elle va descendre de la montagne et elle ira chercher l'eau de la sagesse. Elle en remplira sa cruche et elle ira en donner aux dieux qui s'abreuveront de cette eau. Pour revenir auprès des dieux, elle va passer là, là où se trouve Fionn. Et si, à ce moment-là, il l'appelle, il connaîtra peut-être lui aussi la sagesse. Il ne pourra pas l'apercevoir. Il verra peut-être juste un éclair. Alors il attend. Il attend Sivé. Sivé va aller à la fontaine de la sagesse. Autour de la fontaine de la sagesse, il y a les noisetiers qui sont des arbres sacrés, car ils portent des fruits, les noisettes, des fruits de pourpre et d'or, qui sont les fruits de la sagesse. Ces fruits sont lourds, ils tombent dans l'eau, et dans l'eau nage le saumon. Et il sort de l'eau pour manger les noisettes de la sagesse, et il devient lui aussi le saumon de la sagesse. Et c'est de cette eau-là que Sivé va puiser. C'est la nuit de sa main. C'est la nuit où s'ouvre la porte entre les deux mondes et où les dieux circulent. Et qui sait, peut-être on peut les rencontrer. Fionn ne veut pas vieillir. Il veut mourir l'arme à la main, plein de vigueur et plein de force. Il est là et il attend. Il est seul. Il a jeûné pendant 9 jours. Il va falloir tenir jusqu'au matin. Il lui semble entendre une musique. Il se penche en avant, il prend un peu d'eau dans sa main et il la passe sur son front. Mais voilà, il y a comme un éclair fulgurant. Sivé passe. Sabd ! Crie Fionn. Que veux-tu ? Dit une voix. Et elle est si douce que c'est comme s'il parlait à l'intérieur de lui-même. Te voir, une seule fois. Et puis il s'affaisse, il tombe. Comme il est léger quand il est mort. Quel merveilleux élément dans lequel il se trouve, il est ouvert. Il bouge dans cet élément le porte, il le caresse, c'est de l'eau, il est le saumon, il est devenu le saumon de la sagesse. Il nage dans l'eau. Mais quelque chose le retient encore. Est-ce qu'il va devenir une herbe là dans la vase ou bien est-ce qu'il va aller plus loin? Pendant un moment, le choix l'écartèle et il décide déjà. Et il saute dans le soleil. Et il éclate dans l'infini. Le soleil n'est pas encore levé, mais l'aube devient grise. Fionn se lève, il frotte ses membres. Il est un peu engourdi. Il rit tout bas. Il se dit « Ah, Sigol, mon meilleur ami et mon pire ennemi savait ce que je me raconte avec un rêve, il rirait bien. » Il se lève, il se tourne vers le soleil qui se lève. Il y a un oiseau qui passe. Mais cet oiseau lui a dit quelque chose et il l'a compris. Il se rappelle comme il était saumon. Il se rappelle l'eau fraîche dans sa gorge. Il écoute le bruit de l'herbe. C'est comme si elle riait de sa nouvelle sagesse. Et alors tout bas, il dit « Qui suis-je ?»
Radio Pleine Lune, c'est 1.4 MHz. Eh bien voilà, la soirée va bientôt se terminer, pas encore. Et on a presque fini avec des très belles histoires de Berthe sur des contes celtes. Et moi, il y a une des choses qui m'a frappée, c'est ces réincarnations animales. Le fait que chaque fois, c'est un mythe qu'on retrouve beaucoup des réincarnations où le héros se réincarne dans des animaux, et c'est un mythe presque universel, on le retrouve dans presque toutes les cultures. Voilà, ce qui est peut-être un peu plus typique, c'est cette réincarnation dans le saumon, qui est peut-être plus spécifiquement irlandaise. Parce que, mais sinon, ce passage obligatoire dans presque toutes les formes animales, à part peut-être les reptiles qui ne sont pas assez beaux, c'est quelque chose qui est très, très récurrent. Bien, pour conclure sur ces mots, je suis trop fatiguée. Eh bien voilà, quoi, Radio Pleine Lune, on attend vos téléphones, quoi, en fait, en gros, parce qu'on a besoin de sous, voilà, alors téléphonez, même si c'est pas pour nous commander une carte d'auditrice, ça fait rien. Alors téléphonez au 50 40 51 41 023 depuis la Suisse, et on continue avec de la belle musique jusqu'à minuit. À minuit, comme des belles cendrillons, nous prendrons nos citrouilles et nous repartirons avant le 12e coup de minuit, mais les émissions en direct de Radio Zone continueront toute la nuit, et encore demain, et encore après-demain, et encore après-après-demain, dans le marathon spectaculaire de Radio Zone et de Radio Pleine Lune. Have a hard time when mother's gone. They don't have nowhere to go. Wandering round from door to door. Motherless children have a hard time when mother is gone. Father will do the best he can when mother is gone. Father will do the best he can when mother is gone. Oh, father will do the best he can. So many things you can't understand. Nobody treats you like a mother will when mother is gone. Motherless children sees a hard time when mother is gone. You better believe it. Motherless children sees a hard time when mother is gone. They don't have nowhere to go. Wandering round from door to door. Motherless children have a hard time when mother is gone. Your wife, your husband may be good to you when your mother is gone. Your wife, your husband may be good to you when mother is gone. Wife or husband may be good to you. Turn around and they'll prove untrue. Motherless children see the hard time when mother is gone. Some folks say that sister will do when mother is gone. Some folks say that sister will do when mother is gone. They can tell you sister will do soon as she married, turn her back on you. Nobody treats you like your mother will when mother is gone. Woo! Sometime I get to wondering, did I treat my mother right? I wonder about that sometime. Wonder, did I treat mother right? Hell yeah. She used to walk around my bed. She used to rub my aching head. Nobody treats you like your mother will when your mother is gone. Well, motherless children sees a hard time when mama is gone. Hey, yeah. Motherless children sees a hard time when mother is gone. Wandering round from door to door, really don't have no
no place to go. A motherless child sees a heart die when mama is gone. Precious memories. How they linger. How they ever flood my soul. Precious Father, loving Mother, fly across the lonely the old home scene of my childhood. In I found memories appear. Whoa, precious memories. Whoa, how they linger. Yeah, how they ever flood my soul, my little soul, in the stillness. Hold on. Hold on. Hold on. Keep your hand on the plow. Hold on. I've been viewed, I've been scorned, I've been talked about as sure as your bone, but I got my hand on the plow, I'm holding on. You may talk about me as much as you please, but while you keep a talking, gonna bend my knees. I got my hand on the plow, I'm holding on. Child, hold on, hold on, keep your hand on the plow, hold on, yeah, hold on, hold right on, yeah, keep Sister Mary wore three links of chain, and every link was in my Jesus' name. I got my hand, child, on the plow, I'm holding on. Yeah, I've been beat, and I've been scorned. I've been talked about as sure as you're born, but I got my hand on the plow. Holding on, well, I'm holding on, I'm holding on, I got my hand on the plow, holding on, child, I'm holding on, holding on. A poor pilgrim of sorrow, I'm a tossing this wide world along. No hope have I for tomorrow. I'm trying to make a heaven my home. Sometimes I am both tossed and driven. Lord, nowhere to roam. But I've heard of a city called When death shall determine my stay here, body resting in the cold clay. Cold clay, my soul will catch sight of that city driven, Lord. Summertime, I'm nowhere, Lord. I don't have nowhere to roam. But listen here, I've heard of a city. I've heard of a city. A city, a city, a city called heaven. And I